Là-bas, si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet et son répondeur.
Breton, peuple fier, insoumis à la tyrannie française, aujourd'hui tu revêts le bonnet rouge pour à nouveau te lever contre l'injustice. Glorieux peuple breton, qui te soulève pour défendre ton clergé, alors que l'Église envoyait des missions pour te soumettre à sa foi du temps où tu croyais encore à la terre et à tes dieux païens. Courageux peuple breton, qui lutte aujourd'hui pour défendre tes nouveaux dieux de l'industrie agroalimentaire qui t'ont réduit en esclavage volontaire depuis près de 40 ans avec l'appui du grand argentier Crédit Agricole et la bénédiction de la PAC. On t'a fait produire de la merde à grande échelle, on t'a fait bouffer et respirer cette merde et la disperser à tout vent. Et maintenant tu réalises que tu es assis sur un tas de merde qui coûte la peau du cul à tout le monde. Vas-y. Mets ton bonnet, grand schtroumpf, et essaie de penser qu'il existe d'autres solutions à ton malaise. Il existe tout un tas de producteurs non destructeurs qui vivent de leur passion sans rien devoir à personne. Ceux-là sont libres. Leur seul adversaire, c'est la terre, mais elle est aussi leur partenaire, car eux n'ont pas oublié qui était leur mère. Et quand je mange leurs légumes ou leur viande, tu vois, elle a bon goût.
Bonjour à toute l'équipe de là-bas et à tous les auditeurs. Voilà, je suis étudiant à Caen, je vous explique la situation chez nous. Notre fac, elle est en déficit de 2,2 millions d'euros et l'État se désengage financièrement petit à petit. Déjà 46 postes ont été supprimés à la rentrée et d'ici à 2016, aucun poste vacant, c'est-à-dire les départs en retraite, les démissions, les arrêts maladie et d'autres ne seront remplacés. Les personnels subissent des pressions hiérarchiques terribles et ont de plus en plus de travail. Des filières ferment. L'information est systématiquement cachée par la présidence. Nous sommes autorisés à nous réunir dans l'amphithéâtre le plus isolé du campus 1 et les affiches sont décollées systématiquement et ça dès 7h du mat. Donc voilà, malgré qu'on veuille le cacher, la mobilisation, elle existe et elle prend de l'ampleur. Je vous invite donc à venir nous aider mardi prochain, le 12 novembre. On a besoin de monde dès 7h30 pour des actions et des distributions de tracts. Rendez-vous 7h30 au Phoenix. Ce sera suivi d'une assemblée générale à 13h à l'amphithéâtre, donc le plus isolé du campus. Son nom, c'est l'amphithéâtre Tocqueville. Évidemment, étudiants comme personnel de l'université sont les bienvenus. Je crois qu'il est temps qu'on se bouge et c'est à mon avis valable pour toute la France. C'était un étudiant de Caen.
Bonjour, c'est Yannick de quelque part en Bretagne. Bon, moi je voulais dire que j'ai lu dans Le Monde du 1er novembre cet article aussi édifiant qu'amusant qui informe que la Commission européenne de Bruxelles a mandaté un groupe d'experts pour une étude qui a duré 3 ans pour un coût de 89 300 euros portant sur la normalisation des chasses d'eau européennes dans le but de l'obtention d'un écolabel. Bon, c'est une étude d'une indiscutable utilité aussi bien sur le plan des économies d'eau que sur le plan psychologique, tant il est rassurant de penser que l'Europe s'occupe bien de nos fesses. Mais que penser du reste? Que penser de la France qui prend toute seule l'initiative d'aller bouter hors Mali les barbares djihadistes? Que penser de la filière porcine bretonne en pleine déroute pour cause de concurrence féroce des éleveurs allemands qui n'hésitent pas à faire grand usage d'une main-d'œuvre bulgare low-cost dans un pays où le SPIG n'existe même pas? Que penser des Italiens devant gérer seuls l'accueil des milliers de naufragés arrivant sur leurs côtes? Que penser de cette Europe molle et frileuse du chacun pour soi et du chacun chez soi? Force est de constater que malgré beaucoup d'efforts, l'Europe a encore du mal à trouver l'harmonie en son sein sur quelques secteurs tels que l'économie, la défense, l'éducation, la justice, la politique extérieure, l'énergie. Mais voyant certaines convergences s'établir sur des sujets certes modestes, mais qui n'ont pas moins leur utilité, tels que la normalisation des chiottes européens, je garde espoir et propose que désormais, si vous trouvez gêné et pressé au cours d'une soirée chez des amis, vous demandiez à la maîtresse ou au maître de maison « S'il te plaît, c'est par où l'Europe ?»
Fragrance, ma chérie, après votre mort, je conserverai pour toujours le doux parfum de votre corps contre le mien après l'amour.
Mon cher, si vous deviez mourir, à Dieu ne plaise le premier, je garderai le souvenir de la forte odeur de vos pieds.
C'était Georges Philippe.
Et Francine. Salut.
Eh ben voilà, merci chers AMG, merci pour tous ces messages qui me parviennent ici, en Amérique, aux États-Unis. On est en Illinois, figurez-vous. Et là, ce matin, parce que c'est le matin, on a rendez-vous avec un colonel, une colonel, qui pendant 40 ans a servi son pays et soudain, a trouvé la vérité et la contestation en lisant Howard Zinn. Voilà notre rendez-vous aujourd'hui, mais on a pensé à vous et on vous a laissé une belle histoire, une belle aventure de là-bas si j'y suis, avec Franck Lepage, avec Guy Van Til et moi-même, eh ben, on va aller à la FIAC. Et qu'est-ce que nous sommes, nous, à la FIAC? Trois réac. C'est le sujet du jour. Trois réac à la FIAC. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut les AMG, c'est Julie de Metz pour vous inviter à nous rejoindre aujourd'hui, donc mercredi 6 novembre à 19h au café associatif La Chaouée pour un café repère sur la question « Mais qui veut la peau de Coco Pelli ?» Venez nombreux, nombreuses, tous les amis des graines et tous les contradicteurs seront les bienvenus. Et on se retrouve à 19h au 1 rue du Champé pour un café repère d'actualité. Salut.
Bonjour Daniel et les AMG, le repère de Bordeaux-Bacalan. Je vous propose de rencontrer et discuter avec un visiteur exceptionnel ce mercredi soir. Il s'agit de Bernard Friot qui est de passage à Bordeaux et qui a bien voulu se joindre à nous pour parler de l'enjeu des retraites. C'est ce soir à 19h au bar de la Marine, 28 bis rue Achard. Accès libre en fonction des places disponibles. À tout à l'heure.
Bonjour à tous. Le repère de Paris 14, c'est dimanche prochain 10 novembre. Nous assistons au fil des mois à une recrudescence des propos racistes et xénophobes dans l'espace public, les derniers en date ayant pour cible les Roms. Des propos décomplexés qui apparaissent de plus en plus comme naturels dans des conversations autour de nous. Un racisme ordinaire qui ne semble plus perturber notre quotidien. Comment réagir? Comment répondre? Comment expliquer? Comment éduquer? Nous vous proposons de venir en débattre avec nous. Et pour cela, venez nous rejoindre au café Le Magique, 42 rue de Gergovie, métro Pernetti, à 20h15. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, toutes ces infos sont sur le site d'Hémosphère. À dimanche.
Salut les AMG, ici le repère ternésien de Monchy-Breton. Nous vous donnons rendez-vous ce jeudi 7 novembre au café Tartousse et compagnie à Monchy-Breton. Sur la table, une table bien remplie de sujets diverses et variées. Merci nos politiques, merci nos financiers, merci nos économistes. À bientôt.
Salabas, quel est l'artiste qui a fait ce truc avec...
C'est pas un truc, c'est une œuvre.
Oh pardon. Mais qu'est-ce qu'il veut dire avec ça?
Sexe, humour et abstraction. C'est bien ça? Ouais. C'est drôle.
Ouais, c'est drôle. Bon, on peut dire ça à peu près de tout. Ouais, c'est drôle, c'est marrant. T'as vu, c'est marrant, c'est drôle. Ah, ça, c'est marrant. Ah, ça, c'est drôle.
Ils sont là pour emmerder les gens, non?
Ça, c'est... Les gens, il y a qui? Il y a ceux qui passent perplexes.
Pourquoi c'est... j'arrive pas à trouver ça bien?
C'est ça, enfin, je veux dire, quelque chose en moi se révolte, enfin, tu vois. Et puis, t'as ceux qui adhèrent à fond, enfin, qui... Voilà.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Guy Van Til et Franck Lepage. Trois réac à la FIAC.
Flight number 2, arriving from...
Alors nous voilà au Grand Palais, nous voilà à la FIAC, et c'est la première fois, j'avoue, que je viens à la FIAC. On va bavarder comme ça, chemin faisant, avec Franck Lepage. Qui est venu visiter ça, découvrir aussi, Franck?
Comme vous, comme toi. J'espère être élevé spirituellement. Enfin, je m'attends à ce qu'il y ait un choc entre des œuvres et moi.
Franck Lepage est distingué avec ses conférences gesticulées. Qui continue, Franck?
Oui, bien sûr, oui. Oui.
Continue.
Plus que jamais. Oui.
Et dans tes conférences gesticulées, t'en as une qui concerne ce sujet-là.
On parle un peu de l'art contemporain, oui. L'art contemporain, oui.
Contemporain, contemporain.
Voilà, c'est ça.
Ça donne une idée du regard, des lunettes avec lesquelles tu arrives, la grille.
Parfaitement malveillante.
Ta grille de lecture.
Parfaitement malveillante. Il y a une seule question qui m'intéresse. Comment est-ce qu'à gauche, on peut enfin construire une critique de ça sans être immédiatement considéré comme quelqu'un de droite? Est-ce qu'on va laisser à la droite la critique de cette escroquerie publique, nationale, cette espèce de marché de l'art, d'humour des riches?
Parce que d'entrée de jeu, on est coincé, inhibé par un petit mécanisme très malin qui est que ici tout le monde est subversif, tout le monde fait de la provocation, tout le monde rigole, tout le monde met en abîme, si bien que si jamais tu dis, mais attendez, non, tu passes pour un réac. Donc comme tu ne veux pas passer pour un réac, ou bien tu dis rien, ou bien tu approuves, ou bien tu fais semblant de ressentir, comme tout le monde qui fait semblant de ressentir ici. Ça, je parle des meilleurs. Mais les autres, ils viennent pour spéculer. Ils disent, putain, mais on fait du pognon ici, du bon gros pognon. Et ils croisent effectivement des gens qui font du très, très, très gros pognon. Avec du pognon, ils font du pognon. Et toutes ces choses, ces objets, ces graffitis, ces traces de toutes sortes, servent même plus de support à la spéculation. La spéculation marche toute seule. À la limite, il pourrait y avoir rien ici. Et d'ailleurs, il y a des expos.
Il y a des œuvres totalement dématérialisées. Il n'y a plus besoin d'œuvres. Enfin, on perd son temps avec ça. On peut faire
mais
de
enfin,
l'argent tout seul.
Mais enfin, il y a quand même des choses ici intéressantes, des peintures, des choses qui...
Mais qui sèment la confusion. Qui sème la confusion, qui laisse croire que ce qui s'appelle l'art contemporain est une évolution de l'art tout court, de l'art moderne, alors que c'est une rupture, c'est un projet politique, idéologique qui n'a rien à voir.
Bon, allons-y. Allons-y.
Le ministère de la Culture, c'est un ministère qui vous paye de l'innovation. La droite était moderne. Alors les socialistes sont beaucoup plus modernes que modernes, ils ont inventé le contemporain.
Extrait des conférences gesticulées de Franck Lepage.
Contemporain, c'est tout de suite. Dès que ça a 10 minutes, c'est total ringard. L'artiste contemporain, là, récemment, il a été exposé à la Biennale de New York, alors, il prend un petit déjeuner, puis il arrache un petit coin de la nappe en papier, et puis il assigne. Et donc, au bout d'un moment, il expose ses petites déchirures, comme ça, d'accord, dans les différents endroits où il est allé. Donc voilà, c'est une œuvre d'art contemporain, il a le droit. Et ça s'est vendu 200 000 euros, là, la dernière. Mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse, c'est surtout que ça spécule. C'est-à-dire que ça rentre en bourse, et ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, ça va fabriquer de la valeur, sans passer par la fabrication de la richesse, c'est-à-dire que ça élimine le travail humain, ce qui est un des rêves les plus fous du capitalisme, fabriquer de la valeur sans s'emmerder avec des travailleurs, etc.
Donc là, on est devant une Ferrari qui a été explosée à coups de marteau. Alors tout le monde s'arrête, tout le monde la prend en photo. Hein. Et donc voilà, c'est un symbole fort hein, pour le dire quand même. Enfin, je veux dire, il faut reconnaître quand même le courage de l'artiste. Enfin, tu vois, le message politique est quand même. En plus, elle est rouge. Hein. Enfin, bon,
Là, t'as un texte d'un Afghan qui a été arrêté et torturé. Donc là, ça manifeste, ça proteste, ça libère l'homme. Là-bas, t'as un cul, t'as un gros cul. Alors là, on ose, tu vois. On vous met ça sous le nez, quoi.
Ça, hein. Ça, c'est vraiment en tournant, en pivotant dans l'allée centrale de la FIAC. Quoi. C'est juste un petit 360.
C'est subversion obligatoire, provocation obligatoire. C'est les mutins de Panurge. Hein.
Oui, c'est ça.
Ici, c'est les mutins de Panurge. Et c'est la récupération de la provocation aussi, hein. De toutes les provocations. Si bien que les provocations précédentes, qui étaient héroïques, qui étaient courageuses, qui étaient risquées, où les peintres ou les artistes mettaient leur vie en jeu, leur boulot en jeu, ben, ça s'annule. Tu vois, si tu penses à Topor, par exemple, ben, il a quand même... c'était provocant, Topor, tu vois, le gars. Aujourd'hui, tu mets Topor ici, il passe inaperçu. C'est terrible, non? Ce qu'on voit surtout, c'est la spéculation la plus nue, la plus brute, la plus obscène, la plus pornographique. L'art a toujours été lié au pouvoir. Si on pense, là, quand on dit art ici, on pense beaux-arts quand même, hein, on pense peinture. Et il ne faut pas oublier que quand on pense à ça, on pense qu'à une histoire occidentale, européenne. On ne pense pas à l'Asie, on ne pense pas à l'Afrique, c'est très limité. Bon, mais toujours, l'art a été le moyen du pouvoir. Le pouvoir religieux, de la monarchie, du prince.
Il faut contrôler l'image.
Il faut contrôler. Qui contrôle l'image contrôle le pouvoir. Mais les remises en cause, c'était la fin du 19e. Ça a commencé, ça a donné l'art moderne jusqu'aux années 60. Voilà, mais c'est toujours une discussion avec le pouvoir. On dit, bon, ben maintenant, voilà, on s'est libéré de tout ça. Pas du tout. Maintenant, c'est le moyen du pouvoir du fric. De la finance, de la spéculation et de la finance globalisée.
T'as encore un morceau de bagnole, t'as encore une carcasse de bagnole là, qui est juste posée. Je sais pas, il doit avoir un truc avec les bagnoles, ça c'est une Hyundai.
Mais toute la symbolique est là, c'est-à-dire que si on prend la marque, c'est la marque coréenne qui s'est implantée sur le marché européen.
Alors c'est ça en fait, c'est toute l'idée que l'art s'adresse plus à un spectateur, c'est au spectateur de le fabriquer. C'est le regard qui doit décider ce que c'est. Le type il le pose, tu vois, il pose son morceau de bagnole, là. Et voilà, c'est toi qui décides ce que c'est.
Ça t'interroge alors, quelque
moi,
part.
Moi, je suis interpellé, là. Puis là, le MEDEF tremble sur ses bases. Enfin, tu vois, c'est... D'ailleurs, on ne va pas tarder à voir du sperme d'artiste, enfin, tu vois, pipi, caca, enfin, tout ce qui est régressif comme ça, tu vois, et qui est transgressif. C'est une transgression. Et la transgression, ça, c'est absolument pas de la subversion, c'est le contraire.
Mmh.
vrai succès. 40e foire internationale d'art contemporain, 75 000 entrées en 5 jours, 15 000 VIP, entrée 35 euros. C'est absolument formidable, ils sont ravis, ils sont contents. Voilà un domaine qui ignore crise et récession. Par exemple, un Basquiat a été vendu à 5 millions de dollars. 17 pièces de Lewis Baltz vendues de 10 000 à 15 000. Et l'artiste chinois Ye Mingjun a vendu une pièce à 880 000 dollars. Donc ça se passe bien pour tout le monde et on est obligé de suivre ces trois réacs à la FIAC.
Ah, il l'a fait exprès, c'est un objet de culte. Vous me ferez signe quand vous l'aurez versant adulte. Car si cette chose est un tableau, ma sœur de 10 ans s'appelle Picasso. Un mec s'est approché et m'a dit, cette auteur a du cœur. Ah ouais, un polonais qui utilise plus de deux couleurs. Si je ne me trompe, son style, c'est du merdique au cubique, au débile, au gribouillage abstrait.
C'est un attentat. C'est un attentat. C'est un attentat. Un attentat violent, les deux pieds dans le plat. C'est un attentat. C'est un attentat.
Quelque chose m'intrigue à quelques pas de moi. Il y a un attroupement autour de je ne sais quoi. Je me rapproche, jette un œil. Oula, c'est quoi ça?
C'est de l'art, mon cher, au cas où vous ne le sauriez pas.
Je ne vois pas où il veut en venir, c'est pas que c'est moche, mais il la paie avec l'oreille gauche. Tout le monde me regarde d'un air indigné. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas de ma faute si c'est laid.
Un autre me demande, qu'est-ce que tu penses de ce délire? Je lui ai dit, l'auteur abuse des cigarettes qui font rire. Et j'ai pris du ketchup dans ma main droite. J'ai choisi un tableau bien visé. Splash! Bien entendu, il y a bien eu cette poussée couillon, les cheveux dans le genre code froid de bouillon pour s'extasier devant la tâche. Ce peintre est un chef, admire la perspective. Oh, les couleurs, quel relief!
C'est un attentat violent. Les deux pieds dans le plat.
Mais tu sais bien l'air et dire.
Bon, on continue notre petit tour là, juste pour jeter un coup d'œil. Il y a vachement de monde, hein, quand même, dans les allées.
Ouais.
Là, c'est les galeries new-yorkaises, londoniennes, milanaises. En fait, si j'ai bien compris, il y a une espèce de hiérarchie entre les grandes galeries prescriptrices, qui sont à part, et les autres galeries, qui sont quand même des grandes galeries internationales. Il y a le grand bain et le petit bain. Alors là, je sais pas chez qui on est.
Ah ben, il y a un crochet dans le mur. Est-ce que c'est une œuvre?
C'est la galerie 303 à New York.
Ah, un crochet.
Tu te recueilles peut-être.
Un crochet, un anneau et un crochet.
Un anneau et un crochet, ouais.
Voilà.
Dans un mur.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes qui? Vous êtes Sunset?
Ah, non, on est un petit Sunset, mais on s'appelle 303 Galerie, on est basé à New York, et c'est notre quatrième année à FIAC. Super heureux, c'est une superbe foire. On est très heureux de présenter nos artistes. On a Doug Aitken, Larry Johnson, Jacob Cassé, Valentin Caron, qui a représenté la Biennale de Venise, le Papillon Suisse, Collier Shore, Nick Mouse aussi.
Ça, c'est des jeunes?
Vous avez des jeunes et des plus anciens. C'est une conversation d'artistes déjà établis, de jeunes artistes qui se respectent mutuellement, avec lesquels on essaie de construire un programme qui évolue chaque année, mais qui reste solide dans son...
Mais attendez, j'ai pas très bien compris, franchement. Je me sens un peu idiot, mais le crochet, là, dans le mur...
C'est une œuvre de Valentin Caron.
Ah, j'ai pensé que c'était... On attendait d'accrocher la toile à ce crochet.
Vous êtes un malin, vous.
Non, mais vraiment, je... Valentin Caron, ça.
Par contre, ça serait bien si vous ne touchiez pas l'œuvre.
Ah bon, d'accord.
Mais non, en l'occurrence, cette œuvre-là, ce crochet, il se vend?
Bah ici, on est dans une foire d'un contemporain, donc en effet, ça se vend.
Donc la question qu'on a envie de poser, c'est ça se vend combien?
Cette pièce vaut 15 000 francs suisses.
D'accord.
Environ 13 000 euros.
D'accord.
Ça, c'est très provocateur.
Non, je pense que c'est pas la provocation, c'est un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un basé dans le temps et l'espace qui, à travers son regard, observe le monde. Il nous offre une traduction vis-à-vis de son histoire personnelle, vis-à-vis de l'histoire de son pays, vis-à-vis de l'histoire de l'art. Et donc, certaines œuvres sont plus provocatrices que d'autres. D'autres sont plus simples, plus poétiques. Par exemple, Nick Mouse, ici, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Regardez une œuvre de Nick Mouse, c'est comme écouter une mélodie de Debussy. » C'est ça qui vaut des gens, ça provoque ça chez les gens. Si c'est pas de la progression forcément négative, c'est je ressens quelque chose, j'éprouve quelque chose et j'ai envie d'en parler. Certaines personnes, comme vous le faites aujourd'hui, parfois demander le prix avant de regarder l'œuvre. Et parfois, ils regardent le petit label, le cartel, regardez l'œuvre. D'abord, regardons l'œuvre, essayons de voir qu'est-ce que je ressens en regardant cette œuvre, et après, je vais regarder qui est le nom de l'artiste. On n'a pas besoin d'être rassuré, de dire « Ah, celui-là, je connais, du coup, j'aime », non.
Mais alors, je vais le mettre où, le crochet?
Il faut que tu aies une grande maison avec un mur blanc, parce que si tu le mets dans un endroit...
Je pourrais le mettre où je veux, non?
C'est sûr.
Ouais.
Sûrement, il est votre. Vous participez à ce qui se passe aujourd'hui, à l'art. Vous soutenez un artiste et ensuite, chez vous, c'est à vous d'être un peu créatif et d'agencer. On appelle ça aussi... On n'a pas de vrai mot en français. Curater chez vous.
Curater,
c'est l'équivalent de commissaire d'exposition. Vous êtes votre propre commissaire d'exposition chez vous. Mais en commissaire, c'est un côté un peu...
Ouais.
Commissaire de police.
Pas sympa, vous voyez.
Alors que curateur, en anglais, peut-être sonne plus... est plus précis.
Je peux me faire conseiller éventuellement.
Mais pourquoi vous n'essayerez pas, vous, comme un grand, essayez
de
le faire,
franchement. Je suis impressionné. Hein. Je suis un peu ignare.
Vous n'êtes pas si vieux que ça, vous avez encore des choses à apprendre.
C'est vrai, merci, c'est sympathique. C'est sympathique, vous êtes délicat et avec beaucoup de tact. Bon, ben on vous remercie beaucoup.
C'est un plaisir.
Bonne journée.
Quelle merveille, le Grand Palais, quand même. Hein. Architecture d'acier, architecture de verre. Qu'est-ce que c'est beau, là. La tribune.
Ouais. Oh, c'est pas ça qu'il faut regarder, Daniel. Toi, tu regardes l'architecture de la...
Ah, ben, oui, alors ça, oui. J'adore cette architecture.
Ah, là, je connais, c'est un calder, non?
Ouais, c'est un petit calder qui est là. Mais à chaque fois, c'est...
À côté, c'est pas un petit Andy Warhol, aussi, là? Tu veux du caviar ou pas?
Aujourd'hui...
Il y a en cas de caviar, on peut prendre quand même.
Vous vous sentez un peu élevé, non, spirituellement, je veux dire, ça... Vous sentez la présence de toutes ces œuvres, enfin un peu la théorie de Malraux, tu vois, le choc avec l'œuvre, là, la rencontre avec l'œuvre.
Ouais. Oui, moi je me sens là.
Un peu, oui.
Ouais. Il y a un ascenseur ici.
C'est Bourdieu qui disait si les théories de Malraux étaient exactes, les gardiens de musée seraient des gens très cultivés.
Voilà, ils sont trois dans cet immense grand palais, merveilleux grand palais d'ailleurs. Hein. Oh, quelle beauté ce grand palais. Mais on ne peut pas seulement lever la tête en l'air, il faut regarder aussi ce qu'on a autour de nous. Et c'est pas facile. Dérision routinière, rebelles professionnels, outrage systématique. Trois réacs à la FIAC. Franck Lepage. Le chantage, il est.
Il ne peut pas y avoir de critique de gauche de l'art contemporain. C'est impossible, d'accord? Et cette critique, il faut absolument la construire, parce que ça n'est pas de l'art contemporain, c'est de l'art de marché. C'est même une destruction, enfin, de la question artistique. L'art contemporain réalise un des rêves du capitalisme, qui est de fabriquer de la valeur sans fabriquer de la richesse. C'est-à-dire avec des installations minimalistes, tu sais, deux bouts de machin posés sur un bout de truc qui valent immédiatement des sommes complètement délirantes. Ça permet de montrer qu'on peut fabriquer de l'argent en éliminant complètement le travail humain, en se passant de nous. Ça n'est plus du tout l'œuvre qui est au centre. L'œuvre n'est plus que le support d'un marché pour que des gens comme François Pinault défiscalisent leur pognon, enfin tu vois. Là où ça devient problématique, c'est que pour que François Pinault puisse défiscaliser ou placer son pognon sur deux bouts de moquette collés face à face, il faut que ça soit garanti par un État, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'argent public qui soit mis là-dessus. Et là, du coup, on peut se poser la question, on a le droit de s'en mêler. Après, les riches font ce qu'ils veulent entre eux. Je vais à partir du moment où il faut qu'il y ait un ministère qui achète ces œuvres. Depuis 1991, par décision du Conseil d'État, le prix d'achat des œuvres d'art par l'État est tenu secret. Parce que ça pourrait, ça pourrait nuire à la cote de l'artiste. Enfin, tu vois, je veux dire, quand même.
Ça pourrait dévaloriser la cote de l'artiste.
Évidemment. Tu peux faire n'importe quoi, on s'en fout. Enfin, tu prends 10 bouteilles, tu les peins en rouge. Dès lors que trois instances de légitimation, médias, marché, ministère, c'est une petite clique comme ça de commissaires qui décide que telle personne sera un artiste, que tout ce qu'elle fera peut valoir énormément d'argent. C'est comme ça qu'on fabrique un marché. Alors, si tu veux, après, je veux dire, l'humour n'est pas inépuisable. Enfin, tu vois, une fois que tu as mis, là, comme on vient de voir, là, en bas, là, juste devant nous, un Rodin avec des oreilles de Mickey.
Le fameux magnifique Balzac de Rodin. Avec des oreilles de Mickey.
Voilà,
ouais,
qu'est-ce qu'ils feront l'année prochaine? Ils mettront le bec de Donald. Enfin, tu vois, je veux dire, bon. Mais enfin, j'appelle ça l'humour des riches.
La ruée vers l'art, un film de Marianne Lamour.
Le snobisme a besoin de faire quelque chose de sensationnel. Ils ont besoin de grands prix.
David Mamad, marchand, collectionneur.
Si c'est pas quelque chose de inabordable, les gens ne sont pas intéressés.
Le problème avec les nouveaux artistes, c'est que la spéculation vous empêche de voir clair. Vous voyez tout d'un coup un jeune artiste qui vaut déjà 10 millions de dollars. Alors, il n'y a plus, on est perdu, on ne sait plus quoi. Si c'est les 10 millions de dollars qui le font devenir important ou si c'est lui qui est important. Ça confond. Quand Miro a peint ses tableaux, ça valait rien du tout.
Les Miro étaient invendables.
C'était invendable. Mais ces tableaux étaient invendables jusqu'à il y a 20
Picasso
ans.
Picasso était bon marché.
Picasso était invendable. Tous les grands artistes étaient invendables parce qu'ils n'ont jamais voulu faire quelque chose qui plaisait à l'époque. Parce que c'était des gens qui croyaient en ce qu'ils faisaient.
Ça, c'est le Balzac de Rodin.
Qui est boulevard Raspail à Paris. C'est
qui
ça.
Est à Vavin. Et Rodin a fait une série de Balzac. Il l'a fait dans tous ses états, il l'a fait nu. Balzac s'est complètement prêté au jeu. Et ça, il en avait fait un dans un peignoir, comme ça. Il avait trempé le peignoir dans le plâtre et il l'avait mis sur la figure qu'il avait faite. Et le lendemain, il est arrivé, et par le poids de la terre et du plâtre, la figure s'en allait en arrière, comme ça. Il a décidé que c'était ça la bonne idée. Donc il a mis le hasard dans son travail. Et c'est la sculpture qu'on peut voir à Vavin, toujours aujourd'hui, c'est très beau. Et là, on la voit, alors ridiculisée, avec en Mickey, c'est-à-dire Balzac, un nez de Mickey, les oreilles de Mickey, et des grosses chaussures de Walt Disney. Et donc, c'est la dérision.
Pour une décoration.
C'est vous qui présentez le Balzac de Rodin transformé en Mickey?
Yes, it's by an artist called Darren Largo.
C'est Darren Largo l'artiste qui fait ça.
And I think it's an appropriate thing to have here.
C'est très approprié pour le mettre ici.
And I think a lot of Parisians really enjoyed it.
Et je crois que beaucoup de Parisiens l'ont beaucoup apprécié.
It even got sold.
Et c'est, d'ailleurs, ça a été vendu.
Combien?
60 000 euros. To a private person.
Non, c'est un individu.
60 000 euros, pas mal. Bonne affaire.
Thank
c'est une bonne
you.
Affaire pour vous aussi.
Well, it's a big Balzac.
C'est un grand Balzac aussi.
Ouais, ouais. Mais est-ce que c'est bien, au fond, de ridiculiser comme ça l'œuvre de Rodin et Balzac?
It's very interesting. I was concerned that people might misunderstand and think that that's the case.
Moi, justement, j'avais le souci là. J'avais peur que les gens le comprennent mal, l'appréhendent mal et pensent que, comme ce que tu dis.
But in reality, I think the public have really found it amusing and not offensive.
Et je crois que en fait le public a trouvé ça plutôt amusant et pas du tout offensant.
Because it's not aggressive.
C'est pas agressif.
And it's people have enjoyed it.
Et les gens l'ont aimé.
Mais est-ce que les gens comprennent que c'est Balzac et que c'est Rodin? Mickey, oui, ils doivent connaître.
So.
Mickey, ils connaissent. Disney, ils connaissent, mais Balzac et Rodin.
I think when they're very small, they know it's Mickey. When they're very old, they know it's Balzac. And in middle age, they know both.
Les tout petits savent que c'est Mickey. Les vieux reconnaissent Balzac. Et ceux qui sont en âge intermédiaire font la jonction entre les deux.
Thank
merci
you.
À vous. Merci.
Merci.
Tourne ma piscine, je mange des sardines. Putain, dit mon voisin, c'est de l'art contemporain. Autour de mon jardin, je fais pisser mon chien. Putain, dit mon voisin, encore de l'art contemporain. Écoute, dit mon voisin, à Nice, je vends de l'art contemporain.
Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un marché de l'art? Il faut trois choses. Il faut des riches, il faut des millionnaires, donc maintenant il y en a. Il faut des œuvres à profusion, et tu ne peux pas faire un marché avec du Van Gogh, c'est pas possible. Mais par contre, faire du marché avec deux bouts de moquettes collés face à face, parce que ça, des œuvres, on peut en faire des centaines par jour, des œuvres comme ça. Et puis, il faut une institution. Il faut de l'argent public, il faut une institution qui garantisse la valeur de ses œuvres.
Oui, qui se porte garant, quoi.
Qui se porte garant, qui fait que François Pinault... Il ne va pas mettre 80 000 euros sur deux bouts de moquette s'il n'est pas certain que l'État est là derrière pour garantir ses bouts de moquette. Okay, il n'est pas idiot.
François Pinault, ça lui donne aussi une image...
Oui,
mais le mécène. Pinault le magnifique, hein, c'est plus Laurent le magnifique. Quand on parle de Pinault, maintenant, c'est un collectionneur, c'est un mécène. On oublie complètement les raisons de sa fortune, le business qu'il peut faire, les profits, le marché, etc. C'est un type généreux. Ça date
pas de capital symbolique, quoi.
Oui, c'est la légitimation, c'est le prestige.
Il a tout compris. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec des Velázquez ou des Michel-Ange? C'est impossible, il n'y en aura pas assez. En 2007, chez Sotheby's, il y a un Velázquez qui s'est vendu 12 millions de dollars. Et à la même vente, il y a un Damien Hirst, donc une armoire à glace, une petite armoire avec des pilules à l'intérieur de toutes les couleurs, s'est vendu 13 millions de dollars. Ça s'est vendu plus cher que le Velázquez. À partir de ce moment-là, on bascule.
Là, il y a un seuil qui est passé.
Il y a un seuil qui passe où les œuvres des artistes vivants se vendent plus cher que les artistes morts. Et là, pour le marché, c'est juste génial. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a besoin de s'enquiquiner à chercher des Velázquez si on peut demander à un type de remplir en 15 minutes une armoire avec des pilules? C'est juste magique, ce truc.
On m'a dit que chaque pilule avait été peinte à la main.
J'espère qu'il reste quand même une espèce de parfum de travail là-dedans, quoi, tu vois. Quand même, ouais.
Ouais, ouais, c'est ça.
Ouais, ouais, quand même.
Par contre, ça serait bien si vous touchiez pas l'œuvre.
Mais qui achète ça? Et ce sera combien? Et ça, vous l'avez vendu?
Vous êtes un malin, vous.
Non, mais vraiment, je... Ah. Bon, on peut dire ça à peu près de tout. Non, mais vraiment, je... Ah bon, d'accord. Ah bon, d'accord. Bon, ben on vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Est-ce qu'il n'y a pas une partie du truc, c'est de te faire sentir con, parfois?
Je pense, oui, bien sûr. Alors là, c'est une plante verte, mais qui est penchée.
Ah
c'est
oui.
Un pot.
Alors ça, c'est bon. Ça, attends. Je vais tester un peu la méthode.
D'accord.
C'est un travail qui joue sur le vivant, oui. Et l'inerte.
Oui, c'est pas mal ça. Oui, oui. Et qui met en tension l'incertitude profonde de l'artiste dans son parcours, dans sa linéarité essentielle.
Tout en s'inscrivant, je tiens à le dire, dans la durée aussi, puisque oui. C'est la plante qui
c'est
pousse.
C'est l'image de la plante qui pousse, qui met le temps, comme la maturation de l'œuvre elle-même, de l'artiste. Et puis peut-être un jour elle tombera aussi, parce que les artistes aussi sont éphémères.
Et il y a cette verticalité quand même, la plante qui se redresse. Si le pot est de travers, la plante, oui. Elle se redresse vers le soleil.
Oui, parce que l'art résiste et que l'art sera toujours plus fort que la vie, on peut le dire.
Il y a une résilience. Oui. Alors docteur, je suis bon ou pas?
C'est pas mal. Là c'est typique, on prend les paris. Là-bas, le tapis qui est roulé, c'est une œuvre ou c'est pas une œuvre? Est-ce que c'est un tapis qui est roulé pour le stand ou est-ce que c'est une œuvre?
On va se renseigner, allez.
Moi je pense que non, c'est pas possible.
C'est Liz Magor, Tube.
Donc ça ressemble à un vieux tapis roulé dans un coin, une natte de coco Ikea roulée.
Alors, on se demande, là, il y a un tapis qui est roulé et on se demande si vous faites le ménage ou bien si c'est une œuvre.
It's not a carpet, it's cast. It's a sculpture.
C'est pas un tapis roulé, en fait, c'est une sculpture.
It's made from a mold.
C'est fait à partir d'un moule.
Yep, so basically the artist took a rug and they cast it, they made a mold, and then she produced this work and then put the small holes in it. So it's kind of, it's implying a body or it's implying the presence of a body.
Alors, en fait, c'est un tapis que l'artiste a utilisé. Elle a fait un moule de ce tapis. Après, elle a coulé là, une forme dans ce tout. Elle a fait deux trous à l'intérieur de la structure qui représente un tapis mais en dur. Et ces deux trous suggèrent la présence d'un corps, a body.
Yeah, this is an artist from Vancouver who's she's in her early 60s. She's been making work for 40 years and she makes mostly sculpture, but she's thinking a lot about these kind of spaces where bodies can hide or bodies can take refuge and trying to imply these spaces in sculpture.
C'est une artiste qui a une soixantaine d'années, qui travaille depuis plus de 40 ans à Vancouver. Et qui travaille justement sur ces thèmes récurrents dans son œuvre, sur les endroits où on peut cacher des corps.
Ben alors, si vous n'étiez pas là pour me donner des explications, moi j'aurais pensé que c'était la fin de l'exposition et qu'on est en train de faire le ménage.
With the holes, even with the two holes.
Même avec les deux trous qui sont à l'intérieur.
J'avais pas vu les deux trous. J'ai pensé que c'était deux trous de cigarette.
Yeah, well, the artist, she's a lot of her work is that she's playing with this edge of things when something can be known and something can be very unknown.
En fait, c'est l'artiste qui joue beaucoup cette idée d'être vraiment à la frontière, sur la lisière entre ce qu'on peut savoir et ce qu'on peut pas savoir.
Et quel est le prix?
It's $35,000.
C'est 35 000 dollars.
Mais qui achète ça?
Museums, collectors.
Des musées, des collectionneurs.
Okay.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as vu, mais la dame qu'à côté de celle qui nous a parlé, elle a tellement soupiré quand tu as osé parler d'argent.
Oh, oui.
Qu'est-ce que c'est que ce gros plouc qui...
Ouais.
Je ne sais pas si on entendrait le soupir au micro.
Monsieur parle et prend la pose au bras de ses théories. Il compose, décompose, son œuvre est un parapluie. Sans barrière, il ose pousser les convenances. Conscient de ses névroses, il joue la transparence.
Monsieur est un avant-gardiste, un libertin, un fantaisiste. Il voit du noir entre mes seins. Monsieur s'égare devant les stars. Il fait de l'art contemporain.
Là, tu as une œuvre intéressante.
C'est... Non, ça, c'est un dispositif de sécurité. Ça, c'est l'alarme incendie.
Non, non, c'est un interphone. C'est un interphone, tu vois.
Non.
Si, si, c'est un petit interphone blanc sur un mur. Et ça s'appelle... épuisement, entre parenthèses, interphone.
Sound installation. Ah oui, c'est une installation sonore.
Ça va, et plus j'apprécie de rien faire. Plus je fais rien. Des fois, je fais rien. Avant, ça m'arrivait jamais de rien faire.
Tu peux le mettre chez toi.
Non, maintenant, je fais rien. Je commence à apprécier à rien faire. Je commence à apprécier de prendre mon temps, de vivre tranquille. Quoi. On peut toujours se presser, c'est pénible. C'est stressant.
N'empêche, on reste coincé devant. Hein.
Alors ça, c'est une œuvre de Dominique Petitgand. Ça s'appelle Épuisement, interphone. Et c'est une œuvre 1999-2001. Et il y a l'adresse de l'artiste. Ah ben ça peut intéresser les auditeurs. Alors la galerie, elle est 18 rue des Quatre Fils, dans le 3e arrondissement de Paris. Donc si on veut se procurer ça...
Et attention, il faut faire parce que c'est l'édition de 3. Il y en a eu 3 plus un exemplaire.
D'accord.
Ah.
Ben voilà, rien faire.
Avant, quand je faisais rien, comme ça, c'était...
Quand est-ce qu'on va dire c'est une escroquerie, enfin, c'est...
Ouf. Le roi est nu, il n'y a rien, quoi.
Exactement. L'expo sur le rien à Beaubourg en 2009, 9 salles vides, signées par 9 artistes qui n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, puisque c'est une expo sur le rien. Donc t'as 9 salles avec leurs extincteurs, enfin, il n'y a pas d'intervention, d'accord. Il y a un catalogue, etc. T'as même un 10e artiste qui dit, moi... Puisque c'est sur le rien, je ne veux pas de salle, mais je veux quand même être dans le catalogue, enfin, tu vois.
En 1961, moi, j'étais aux Beaux-Arts à l'époque, il y avait une galerie rue des Beaux-Arts qui faisait une exposition Klein. Et nous, ça nous intéressait, au moins parce qu'ils faisaient des nus qui se collaient sur la toile. On espérait qu'il y aurait des filles qui seraient peintes. On arrive dans la galerie, il y avait du monde, vernissage, etc. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas le petit crochet qu'on a vu tout à l'heure. Il n'y avait rien du tout. Alors bon, ben on se dit, ils sont à la bourre, ils vont amener les toiles, ils vont... Et quelqu'un ose poser la question à la personne qui était là, mais qu'est-ce qu'on peut acheter ici? Et la personne répond, on achète l'ambiance. Et on dit qu'il y a un gars qui a sorti son chéquier, qui a dit d'accord, combien pour acheter l'ambiance? Mais c'était il y a 50 ans. Là, il y avait une dérision par rapport à ce qui se faisait de façon générale. C'était la fin de ce qu'on a appelé l'art moderne. Et là, il y avait une charge de provocation, de... Et c'est ça qui a fait école, finalement. C'est le rien, c'est le vide qui a fait école.
C'est la charge contre l'institution qui est devenue l'institution. Et là, on la FIAC qui est à nos pieds, c'est le...
Absolument,
la photographie.
C'est l'art officiel. C'est pas l'art officiel français ni européen, c'est l'art officiel de la finance et de la spéculation.
La ruée vers l'art, un film de Marianne Lamour.
Le monde entier a de moins en moins confiance dans les monnaies. On voit encore ce qui se passe avec l'euro, donc avec le dollar. Donc des gens qui ont besoin de se dire qu'ils veulent mettre une partie de leur patrimoine en actifs mobiliers.
Yves Bouvier.
Donc l'actif mobilier serait parti art, vin et métaux précieux.
Président du Port Franc de Singapour.
Donc on voit que depuis la crise de 2008, c'est un secteur qui s'est développé fortement. Les gens ont besoin de posséder et de posséder où ils savent qu'ils peuvent aller, pas posséder à travers d'une banque.
Daniel a disparu, je crois qu'il a eu un choc esthétique. Alors voilà.
Si on osait, on demanderait le prix de cette vitrine de cuillère.
Mais c'est de l'argenterie, attention. C'est la galerie Mehdi Chouakri, à Berlin. C'est audacieux.
Ouais.
Ça parle quand même. Hein.
Ça me fait penser à tous ces enfants qui ne mangent pas.
C'est ça.
Buenas tardes.
Vous parlez français, non?
Oui, on parle français.
Ouais, qu'est-ce que c'est, ça? Ces cuillères, là?
Ah oui, mais je sais pas, ça me rappelle le monde de Plotinus qui dit qu'il y a un monde où toutes les idées très générales de les choses existent. Donc, quand tu penses à une chaise, c'est ça, et c'est
une chaise.
Une chaise, ouais. C'est une idée générale d'une chaise que vous avez dans votre tête.
Oui.
Et mais quand vous pensez avec une cuillère comme ça, vous pensez à l'idée générale d'une cuillère. Mais quand je veux tout ça, je pense ça, que tous ça ressemble à l'idée générale et très
plus. L'idée platonicienne de l'idée. Cuillère. L'idée absolue, la cuillère en soi et pour soi.
Mais ici, on voit tout son différent. Mais si, ouais. si on le voit indépendamment, chaque cuillère,
ouais.
tout se ressemble à l'idée générale de la cuillère qu'on avait dans nos têtes.
Parce que moi, je pensais que c'était un jeu, il fallait trouver les cuillères qui vont ensemble.
Peut-être.
Vous êtes Mehdi Chouakri.
Exactement.
Et c'est votre galerie qui est à Berlin.
Exactement, oui.
Alors, on est un peu, évidemment, intrigué, comme tout le monde. C'est fait pour ça, hein.
Bien sûr, une œuvre d'art intrigue.
Ben alors là, on est spécialement intrigué parce que on voit toute une série de cuillères à soupe dépareillées, tout en argent ou en étain.
Donc c'est en fait une forme d'hommage au quotidien. L'artiste Hans-Peter Feldmann, allemand, né en 1941, qui vit à Düsseldorf, il a eu de grosses rétrospectives ces dernières années, a beaucoup travaillé sur cette idée-là du quotidien, de la poésie du quotidien. Il collectionne beaucoup d'objets. C'est un des plus grands collectionneurs de jouets, entre autres. Et il adore, a priori, l'idée de collectionner des cuillères argentées. Et il en a une grande collection. Et il les montre dans une vitrine, presque comme dans un cabinet de curiosité. Il veut bien nous montrer ça, ce qu'on ne voit plus nous-mêmes. C'est ce quotidien-là.
Mais il ne fait pas que les montrer, vous le vendez aussi, ça.
Bien sûr.
Et vous l'avez vendu ?
Pas encore. Mais c'est possible qu'on la vendra ces prochains jours.
Tout à l'heure, j'ai vu une dame qui disait que c'était une évocation du concept des idées platoniciennes, de l'idée platonicienne de la cuillère qui est une et unique et qui se retrouve à l'état d'objet dans chacune des cuillères.
Vous n'attendiez pas à ça quand même, si ?
Non, pas du tout. Lui, il n'en parlera pas comme ça. Lui, il vient plutôt de la vie du quotidien. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire un discours philosophique. Ouais. C'est vraiment la beauté du quotidien qui l'intéresse. C'est un geste. C'est poser une cuillère sur une table, par exemple, et de répéter ce geste-là.
Vous savez ce qui nous a frappé là, on a un ami qui est breton là, qui est avec nous, et il découvre un peu tout ça. Ce qui t'a frappé, c'est les tapis. Et on a vu des tapis enroulés dans plusieurs stands. Mmh. Je découvre, c'est un tapis aussi, ça ?
Pas du tout. C'est une œuvre de Mathieu Mercier, artiste français qui a eu le prix Marcel Duchamp, entre autres, et qui vit à Paris. Et cette œuvre-là, qui avait été montrée à la Fondation Ricard il y a un an, est en fait une sculpture en plastique qui a été moulée d'une certaine façon et qui peut représenter un tapis enroulé, mais elle est dure. Donc, quand cette souplesse-là d'un objet souple qui est le tapis, on passe à un objet dur, solide. C'est une forme de cabinet de curiosité, ce que je montre. Hein. Cette collection de cuillères, le flamant rose avec l'escabeau, ou cette scène presque d'un ouvrier de chantier, d'une certaine façon, avec le plâtre. Je dirais, ça
vous fait une miroir. Connotation sociale, là, presque.
Absolument, une connotation sociale et même de l'ordre. Il y a aussi un côté primitif, c'est que l'artiste a vraiment travaillé ses matériaux, il les a achetés, il les a construits lui-même. On voit bien le procédé. Il est allé, il a acheté le sac de plâtre, il a acheté les tasseaux et il a construit tout ça pour dire. C'est en fait presque comme un autoportrait.
Et ça, vous l'avez vendu ?
Pas encore.
Et ce sera combien ?
C'est à 15 000 euros.
D'accord. Les 15 000 euros vont où ? Ça va à celui qui l'a fait, quand même.
Mais en fait, on se partage.
Oui, bien sûr.
Voilà. On se partage à moitié-moitié.
D'accord. Voilà. Ça va, c'est honnête.
C'est honnête.
Si
c'est
ça fait 7 500 euros pour le gars qui a fait ça, ça va, c'est raisonnable.
Voilà, c'est...
Non, c'est vrai. Je lui souhaite de les... tu vois, je l'achèterais, moi, ça, si j'avais les 15 000 euros. Pour que le gars ait les 7 500 euros. Non ?
Bonjour.
Dites-moi, vous êtes contente de ce salon ?
Alors, vous tombez très mal, parce que je ne parle jamais de ça. Je veux bien vous parler des œuvres, mais je ne parle pas du marché, jamais.
Ah, d'accord, d'accord. Alors, parlez-nous des œuvres. Ça, à la base, quel est l'artiste qui a fait ce truc avec...
C'est pas un truc, c'est une œuvre.
Oh, pardon.
Et il s'appelle Théo Mercier.
Et qu'est-ce qu'il veut dire avec ça, avec cette accumulation d'os jouets pour chiens ?
Non, ce n'est pas des os, c'est des os à mâcher. Tous les chiens ont des os à mâcher.
Ben alors, c'est de l'art, ça ?
Oh, écoutez, non, franchement, je suis désolée. Mais au bout de 35 ans de galerie, je ne réponds pas à ce genre de questions. Je suis désolée, non. Non. Et vous, si vous voulez vraiment, c'est de l'art, mon fils peut faire ça, tout ça. J'écoute plus
non,
ça.
Non, je vous pose la question.
Non, je réponds plus à ça. Pardonnez-moi.
Ah bon?
J'ai passé l'âge de répondre à ce genre de questions.
Bon. Vous avez un peu fatigué, non?
Non, je suis en pleine forme, en pleine forme. Je réponds à une question stupide. Et franchement, en 2013, basta.
Mais là, je vais vous mettre en colère si je vous demande si vous êtes choqué par l'incroyable spéculation sur cet art contemporain. Ça aussi, c'est un truc qui vous choque.
Vous avez remarqué qu'on a commencé l'interview, je vous ai dit que je ne parlais pas du marché.
D'accord. Ni le marché, ni la définition de l'art. Pour vous, c'est une question réglée.
On dit toujours que l'art, c'est parce que c'est un artiste qui l'a fait. Vraiment, France Inter, vous pouvez faire mieux que ça. Hein.
D'accord.
Vraiment,
bon. On vous remercie pour vos conseils et votre accueil, madame.
Ben, j'accueille par rapport à vos questions.
Oui. Merci.
Bonne journée.
Merci.
Merci, au
revoir. Moi, je pense que c'est une forme de totalitarisme, si tu veux. Quel totalitarisme? Du relativisme. Je me rappelle de cette émission sur France Culture quand Boltanski avait fait son tas de fringues au Grand Palais. Tu te rappelles de ça? Il avait un immense tas de fringues. Et alors la journaliste de France Culture qui l'interview essaye de lui faire dire que ça veut dire quelque chose. Et donc elle lui demande un truc du genre, mais Christian Boltanski, est-ce que c'est supposé représenter la Shoah, les camps de concentration? Et lui dit, mais non, pas du tout. Et elle insiste, elle dit, mais enfin quand même, on dirait... Et lui, limite, se fâche, enfin, disant, arrêtez de vouloir me faire dire quelque chose. Je suis un artiste contemporain, je ne veux rien dire. Enfin, tu vois, c'est pas du socio-cul, c'est pas du...
Ah oui, c'est ça. C'est vouloir dire quelque chose, c'est socioculturel.
C'est mettre l'art au service d'une cause, et ça, c'est scandaleux, tu vois. Le ministère de la Culture ne te dit que ça. C'est comment vous voulez instrumenter l'art. L'art n'a pas à servir quoi que ce soit. Et ça, c'est une vision qui a été introduite. Alors là, il faut faire un peu de complotisme. C'est une vision qui a été amenée en France par la CIA dans les années 50 pour lutter contre la tentation communiste de l'ensemble des intellectuels européens. Tous les intellectuels européens, les artistes, étaient tournés vers la tentation égalitaire, vers le communisme. Et il a fallu les détourner de ça en leur proposant une liberté qui n'est plus qu'une liberté de faire n'importe quoi, totalement dégagé des enjeux de société. Il y a Evelyne Ritten, qui est une prof de Bordeaux, a écrit un livre qui s'appelle « Les stratèges de la culture ». Elle dit un truc magnifique, elle résume tout en une seule phrase. Elle dit « La culture, c'est ce qui sert à empêcher l'énonciation du conflit social ». On ne peut pas le dire mieux. Et regarde là, regarde ça. Quelle est l'œuvre qui te fait réfléchir? Et ce qui est le plus fou, c'est que tous les gens qui défendent ça te disent « Ça change le monde, l'art va changer le monde ». Tu vois, parce que ça élargit ton imaginaire. Tu te sens un peu élargi, non?
Merci à toutes et à tous. C'était Trois Réac à la FIAC, un reportage à la Foire internationale d'art contemporain qui vous dit Daniel Perret. C'est le conférence gesticulée. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez également écouter cette émission sur là-bas.org. La technique aujourd'hui, Gaël Braouzec et Bruno Poncelet. Montage, Guy Vanquetil et Lucie Hakoun. Cette émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Guillaume Giraud, préparée avec Jonathan Duong et Stéphanie Fromentin. Attends vos messages sur le répondeur de la basse édition 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour la basse si j'y suis. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec son temps de Pochon.